Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 17 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, le procès pour viol contre l'opposant Sonko, renvoyé dans un contexte de troubles, 3 morts cette semaine. Au Nigeria, un convoi américain attaqué mardi par des hommes armés dans le sud-est, 4 personnes non américaines tuées et 3 autres kidnappées. En RDC, appel à la libération provisoire d'un ex-conseiller présidentiel, Fortuna Biselele, emprisonné pour trahison présumée. Faute d'accord sur la dette, le président américain Joe Biden écourte une tournée majeure en Asie. Intelligence artificielle pour le patron d'OpenAI, l'intervention des gouvernements est cruciale. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Sénégal, 3 personnes ont trouvé la mort lors d'affrontements entre la police et des partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Son procès pour viol présumé est reporté au 23 mai. Le point avec Nanit Talani.
2 jeunes gens ont été retrouvés morts dans la nuit de lundi à mardi à Dakar et à Ziguinchor, dans le sud du pays, où un policier est décédé lundi après avoir été accidentellement écrasé par un véhicule blindé anti-émeute, a indiqué le ministère de l'Intérieur. À Ziguinchor, où M. Sonko est maire, la foule a jeté des pierres sur la police qui a répliqué par des gaz lacrymogènes. À Dakar, 20aine de véhicules d'un dépôt de la Compagnie nationale des bus ont été incendiés. 2 supermarchés Auchan, une chaîne française, ont également été attaqués. Dans ce contexte, le procès de M. Sonko s'est ouvert hier à Dakar, mais a été immédiatement reporté au 23 mai en l'absence de M. Sonko. Son accusatrice Adissa Ndei Kadindiaï, la propriétaire du salon de massage où le viol présumé a eu lieu, étaient toutes les deux présentes. Ousmane Sonko, 48 ans, qui a été aussi condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et insulte à l'encontre du ministre du Tourisme, a nié les faits qui lui sont reprochés. Il affirme que toutes ces poursuites judiciaires sont un complot pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024.
Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué un convoi américain mardi dans le district d'Ogbaru de l'État de l'Anambra, tuant 4 personnes non américaines et en kidnappant 3 autres, a-t-on appris de sources officielles concordantes. Aucun citoyen américain n'était dans le convoi, a indiqué un porte-parole de la police nigériane Ikenga Tochukwu, ce qu'a confirmé John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les hommes armés ont tué 2 agents de la force mobile de la police et 2 employés du consulat américain avant d'incendier leur véhicule, selon M. Tochukwu. Plusieurs groupes séparatistes actifs dans cette région du sud-est ont récemment intensifié leurs attaques, prenant habituellement pour cible la police et les bâtiments du gouvernement. Les autorités nigérianes attribuent ces attaques à l'IPOB, mouvement des populations indigènes du Biafra, qu'elles considèrent comme un groupe terroriste, tout comme son bras armé du Eastern Security Network. L'IPOB a plusieurs fois contesté toute implication dans les violences. En République démocratique du Congo, la défense de Fortuna Biselele, ancien conseiller du président Félix Tshisekedi, emprisonné depuis 4 mois pour trahison présumée, a appelé hier à sa libération provisoire pour raison de santé. Rosine Mounezero.
Détenu depuis le 21 janvier à Makala, la grande prison de Kinshasa, Fortuna Biselele, qui souffre d'une déchirure au bras droit, va très mal. Sa santé se dégrade de jour en jour, a déclaré son avocat, maître Richard Bondo. Il demande sa libération provisoire pour raison de santé. Poursuivi devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, il doit comparaître le 19 mai. Il lui est reproché la trahison, une infraction punissable de la peine de mort, pour avoir été en intelligence avec le Rwanda, une puissance étrangère qui a agressé la République démocratique du Congo, a expliqué Maître Bondo. L'affaire a éclaté après une interview diffusée dans une vidéo en ligne dans laquelle M. Biselele évoquait les relations de coopération économique entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Ces relations, qui semblaient se normaliser au début du mandat de M. Tshisekedi en 2019, sont aujourd'hui exécrables depuis la résurgence de la rébellion du M23.
L'influenceuse ghanéenne Mona For Real, arrêtée en novembre au Royaume-Uni, a été extradée aux États-Unis. Lundi, elle a été inculpée pour avoir participé à un réseau d'escroquerie sentimentale via les réseaux sociaux auprès de victimes âgées américaines. Mohamed Houmfa nous en dit plus.
Connue sous les pseudos Mona For Real ou Adia For Real, l'influenceuse de 30 ans qui a compté jusqu'à 3,4 millions d'abonnés sur Instagram a plaidé non coupable des charges de blanchiment d'argent, fraude électronique et recel de vol lors d'une audience lundi au tribunal fédéral de Manhattan. D'après l'acte d'inculpation, la jeune femme Mona Faiz Montrage, de son vrai nom, présente dans les secteurs de la mode et de la musique, aurait participé entre 2013 et 2019 à une entreprise criminelle basée en Afrique de l'Ouest qui visait à arnaquer des victimes américaines en leur faisant miroiter des histoires d'amour. Les victimes, pour la plupart des hommes et des femmes vulnérables et âgés vivant seuls, recevaient courriels, SMS ou messages sur les réseaux sociaux, leur faisant croire qu'elles entretenaient une relation amoureuse avec l'un des escrocs, explique un communiqué du parquet fédéral de Manhattan. Elle est soupçonnée d'avoir reçu 2 millions de dollars sur ses comptes bancaires grâce à ses escroqueries.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a réduit la durée d'un important voyage en Asie et reviendra à Washington plus tôt que prévu pour des discussions visant à éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique, a déclaré la Maison-Blanche mardi. De nouveau, Rosine Mounezero.
Le président américain se rend au Japon aujourd'hui mercredi pour un sommet du G7, mais des étapes ultérieures en Papouasie, Nouvelle-Guinée et en Australie ont été supprimées pour faire face à l'impasse interne sur le relèvement des limites d'emprunt des États-Unis. Le président Biden rentrera aux États-Unis dimanche après le sommet du G7 pour des réunions avec les leaders du Congrès pour s'assurer que le Congrès prenne des mesures avant la date limite pour éviter le défaut de paiement, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. Après une réunion franche et productive mardi avec les dirigeants parlementaires de l'opposition sur la question cruciale du plafond d'endettement public, le président Biden est optimiste, a fait savoir la Maison-Blanche. Il reste du travail sur plusieurs questions difficiles, mais le président américain est optimiste quant à la conclusion d'un accord budgétaire raisonnable, selon un communiqué de l'exécutif américain qui précise que Joe Biden s'entretiendra une nouvelle fois cette semaine par téléphone avec les principaux responsables du Congrès avant de les revoir en personne après son retour dimanche du voyage au Japon. Pour sa part, son principal interlocuteur, le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a assuré qu'il restait beaucoup de travail à faire en peu de temps pour trouver un terrain d'entente.
L'intervention des gouvernements pour réguler l'intelligence artificielle va être cruciale afin de limiter les risques liés à cette technologie, a plaidé mardi Sam Altman, le jeune patron d'OpenAI, créateur de l'interface ChatGPT qui déchaîne les passions. Il est essentiel que l'intelligence artificielle la plus puissante soit développée avec des valeurs démocratiques, a estimé M. Altman devant une commission parlementaire américaine, ce qui signifie que le leadership des États-Unis est déterminant. Les élus ont débattu avec M. Altman et deux autres experts de la nécessité de réguler des systèmes informatiques qui pourraient littéralement détruire nos vies, selon la formule du sénateur républicain Lindsey Graham. La Minute Éco, Nanit Talani.
La Guinée-Bissau devrait connaître une croissance économique de 4,5% en 2023, indique le FMI. Cette performance sera tributaire de la production agricole, des projets d'infrastructure et de la stabilité politique. Pour que ces performances s'inscrivent dans la durée, le FMI recommande le renforcement de la gouvernance, la gestion des ressources fiscales et la lutte contre la corruption. La quantité de vanille exportée par Madagascar a baissé de 43,3% au premier trimestre 2023 comparé à 2022, estime la Banque mondiale. Les exportations de girofle ont baissé de 16,3%, celles de cobalt de 33,8% et des prix chutant à moins de 50%. Toutefois, les exportations de nickel profitent de l'embellie au niveau international avec une hausse de 30,9%. Et une légère augmentation de 2,1% du volume exporté. Terminons par la Chine qui se dit disposée à travailler avec l'Érythrée pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique. Pékin affirme encourager ses entreprises à investir en Érythrée tout en voulant discuter de la construction d'infrastructures et de la coopération dans les télécommunications, l'agriculture, l'exploitation minière et d'autres domaines, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping à son homologue érythréen Isaias Afwerki lors d'une réunion à Pékin.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Inter Milan ramène l'Italie en finale de Ligue des Champions.
Oui, l'Inter Milan du Camerounais André Onana, dernier club italien à avoir conquis la Ligue des Champions en 2010, a de nouveau battu l'AC Milan 1-0. Après le 2-0 de l'aller pour amener en finale le pays du Calcio, l'Inter Milan sera évidemment l'outsider à Istanbul le 10 juin contre l'inoxydable Real Madrid au 14 sacre, le record où l'affamé Manchester City en quête d'une première couronne. Ces deux clubs se disputent ce soir l'autre place de la finale à l'aller. À Madrid, ils se sont neutralisés un but partout.
Ici, en MLS, une nouvelle franchise voit voir le jour à San Diego.
Une nouvelle équipe basée à San Diego, en Californie, va intégrer le championnat nord-américain de football. Le milliardaire égypto-britannique Mohamed Mansour a déboursé à la MLS un droit d'expansion record de 500 millions de dollars, a appris l'AFP auprès d'une source proche du dossier. La franchise, qui sera la 30e de la Ligue, débutera lors de la saison 2025. Le précédent droit d'expansion le plus élevé avait concerné l'intégration du Charlotte FC en 2019 pour 325 millions de dollars. En 1996, les clubs pionniers avaient dû payer seulement 5 millions de dollars.
Arts martiaux mixtes, à présent, Francis Ngannou s'engage avec l'organisation la PFL, Professional Fighters League.
Le Camerounais, ancien champion poids lourd de l'UFC, s'est engagé avec la PLF, une organisation américaine concurrente. Bagassi Koura.
Selon la Professional Fighters League, ce nouveau contrat permet à Francis Ngannou de combattre en boxe anglaise comme il le souhaitait, et en arts martiaux mixtes, sa discipline de prédilection. Il y a 4 mois, Ngannou, alors détenteur de la ceinture au poids lourd, a quitté avec fracas l'UFC, la plus puissante ligue de MMA, sur fond de désaccords sur sa rémunération et celle des autres combattants de l'organisation. Avec la PFL, Ngannou va participer à un combat de boxe anglaise en 2023 et reviendra combattre en MMA au sein de sa nouvelle ligue en 2024. Il devient aussi membre du conseil consultatif de l'organisation pour représenter les intérêts des combattants et président de sa branche Afrique avec pour mission de détecter de nouveaux combattants et d'organiser des événements en 2025 sur le continent. Ni la durée du contrat, ni le montant n'ont été révélés par Ngannou ou par la PFL qui s'est pourtant vanté sur son compte Instagram d'avoir conclu, je cite, la signature la plus chère et la plus importante de l'histoire du MMA.
Ajoutons pour terminer Yacouba, qu'en NBA, les San Antonio Spurs choisiront en premier le joueur de leur choix à la draft du 22 juin, selon la loterie effectuée mardi, et ils devraient, sauf surprise, en profiter pour sélectionner le prodige français Victor Wembanyama, appelé à faire ses grands débuts à NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans plusieurs villes du Sénégal, des affrontements ont eu lieu lundi et mardi, causant la mort de 3 personnes et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Pour beaucoup de Sénégalais, cette situation pouvait être évitée. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des barricades sur les routes principales, des pneus brûlés, des commerces saccagés et des pertes en vie humaine, des faits déplorables pour Mor Diarra qui estime que l'opposant Ousmane Sonko doit aller répondre à la justice.
Les événements qui se sont déroulés hier sont regrettables. Des bus Dakar Demdik incendiés pour des faits aussi légers. Il ne s'agit pas d'emprisonner Ousmane Sonko, mais juste un procès doit avoir lieu. Et c'est après ce procès seulement qu'on saura si le gouvernement veut liquider Ousmane Sonko. C'est mieux que le leader de PASTEF défère à la convocation de la justice parce qu'on l'a accusé. Et je crois qu'en tant que citoyen qui prétend diriger le pays, il a l'obligation de répondre à la justice.
Pour Jean-Yoro Diop, le système judiciaire ne garantit pas un procès impartial à l'opposant Ousmane Sonko.
Toujours un système judiciaire arbitraire. Parce que je ne vois pas comment un pays où l'on dit qu'on est une démocratie, mais on est une démocratie que de mots. Parce que l'appareil judiciaire, entre guillemets, c'est le président Macky Sall qui le dirige. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qu'on a accusé de viol pendant presque 3 ans. 3 ans, tu ne peux pas prouver que ce gars-là il est coupable.
De son côté, Pape Diagne, marchand ambulant, appelle toutes les parties au calme pour le bien du pays.
On doit cesser cette mascarade pour faire revenir un climat de paix dans ce pays. On est dans un pays de démocratie et l'on doit cesser cet acharnement sur la personne de Ousmane Sonko. Imaginez, à cause de cette affaire, on ne peut même pas vaquer à nos occupations et le renvoi du dossier va créer d'autres tensions. C'est vraiment dommage.
Les Sénégalais sont divisés sur la situation politique actuelle. Cependant, tous s'accordent à dire que les hommes politiques de tous bords doivent faire le nécessaire pour préserver la paix et la stabilité du pays. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à Genève à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. Il y a peu, cette question avait suscité des réactions dans la classe politique congolaise après la déclaration du côté congolais disant qu'il n'y a pas de Congolais au Rwanda. Qu'en est-il à Kigali? Jean Damascène Manishimwe pour les détails.
Les nouvelles de cette réunion tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais au Rwanda et des réfugiés rwandais en RDC ont été accueillies avec un sentiment de satisfaction totale. Côté rwandais, le porte-parole adjoint du gouvernement Alain Mukuralinda a indiqué que cette rencontre a débouché sur des conclusions très importantes puisqu'on a fixé un calendrier des réunions en vue de trouver une issue durable au problème des réfugiés entre les deux pays. Ce sentiment est également partagé par les Congolais vivant au Rwanda. Le docteur Awaz Raymond, président de la diaspora congolaise au Rwanda, qualifie la réunion de très bonne nouvelle, car c'est un pas important vers la paix durable à l'est de la RDC.
Parmi les revendications du mouvement de 23 mars, un 23 en cible, il y a cet aspect-là du retour des réfugiés. Et cet aspect a été abordé dans les années passées, c'est pas la première fois. Pour des raisons politiciennes, bien sûr, la machine était bouée. Aujourd'hui, on revient à ce qui a été dit en 2012 ou 2013, Je crois que c'est la volonté politique de part et d'autre, c'est-à-dire côté RDC, côté Rwanda, de pouvoir aller de l'avant. Oui, je crois que ça donne une lueur d'espoir en plus. Et je crois que aussi, ça va apaiser des tensions entre les deux pays. Si vraiment ils peuvent parler en toute sincérité, en toute honnêteté, c'est parmi les pommes des discordes, je peux dire.
Pour l'analyste politique de la région des Grands Lacs, Alexis Niseimana, cette réunion est une voie vers la solution durable du problème des réfugiés congolais et rwandais dans les deux pays respectifs.
Ces réunions vraiment procurent, je dirais, un climat de dialogue, un climat qui peut même servir à faire gagner le bercail ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda, mais aussi de trouver la voie des réfugiés qui seraient au Congo, qui veulent venir au Rwanda, mais qui n'ont pas d'issue à cause de l'insécurité qui règne à l'Est.
D'après les autorités rwandaises, le pays héberge plus de 70 000 réfugiés congolais, dont les camps situés à l'est, à l'ouest et au sud du Rwanda. Certains d'entre eux ont fui la RDC il y a plus d'une vingtaine d'années. Jean Damasélimani Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
Concernant toujours cette entente entre la RDC, le HCR et le Rwanda, dans la province du Nord Kivu, des avis divergent sur ces nouvelles ententes entre Kinshasa et Kigali. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Selon Kigali, quelques 70 000 réfugiés congolais vivant les sols rwandais doivent être rapatriés. À Goma, il y a aussi plusieurs réfugiés rwandais qui attendent de rentrer chez eux, explique Kérène Umutoni, jeune fille née avec les statuts de réfugiés.
Moi j'ai 22 ans aujourd'hui. Je suis née et j'ai grandi au Congo en tant que réfugiée. Mes parents nous rappellent toujours que nous sommes rwandais. Et nous espérons qu'un jour nous retournerons chez nous.
Cette jeune fille dit ne pas être prête de retourner au Rwanda en cette période, malgré la volonté manifestée par Kigali de les rapatrier. Ses raisons, comme pour toute sa famille, sont d'abord politiques.
Au Rwanda, nos parents sont considérés comme des rebelles, parce qu'ils sont des Hutus. C'est pourquoi nous attendons tous les jours, nous y rentrerons en toute sécurité.
À l'issue de cette réunion à Genève entre les Rwanda, la RDC et les HCR, un communiqué a été signé dans lequel les deux pays s'engagent à respecter les droits au retour volontaire et sécurisé des réfugiés, mais la méfiance envers les autorités rwandaises est vivace chez beaucoup de Congolais. Roger Mouniniré, acteur de la société civile.
Si le gouvernement de Kagame peut prendre cette décision, c'est quelque part une façon de chercher comment les accadés dans le Nord Kivu et de les donner la terre telle que Kagame est en train de dire qu'il y a une terre pour le Rwanda qui est au niveau de la RDC, chose qui n'est pas vraiment vérifiable. Parce que l'histoire n'est pas vraiment claire à ce sujet. Et il fallait que les HCR puissent préparer comment ils vont recevoir ces réfugiés au niveau de notre pays, mais aussi ceux qui sont ici au Congo, qu'eux aussi puissent rentrer au niveau du Rwanda.
Pour Maître Moïse Kakoulé, la question des rapatriements des réfugiés n'est pas opportune en cette période où la paix demeure un casse-tête dans les régions qui sont censées les accueillir.
Moi, je pense que ce n'est pas le moment de parler des cas des réfugiés, de faire retourner les réfugiés ici grecs. Effectivement, on ne peut pas demeurer réfugiés toute la vie. On doit retourner dans les milieux naturels maintenant. La question que nous nous posons, est-ce que ces milieux naturels-là de nos réfugiés, les conditions de vie sont encore garanties? Est-ce qu'il y a la paix qui est revenue de l'autre côté? Les réfugiés rwandais qui sont au Congo, ils étaient venus en RDC, c'était l'effet de la guerre. Et moi, je peux conseiller aux deux pays de surseoir cette question pour ne pas susciter des tensions davantage et créer des morts de plus.
La RDC et les Rwanda ont fixé un autre rendez-vous à Nairobi dans un mois pour définir les modalités pratiques et relancer les processus de facilitation du rapatriement volontaire de réfugiés. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Le point sur les nouvelles règles migratoires mises en place par les États-Unis après la levée du titre 42, une politique adoptée pendant la pandémie de Covid-19 et qui a permis de restreindre considérablement l'entrée des migrants dans le pays tout en provoquant de vives critiques. Pourquoi l'administration Biden a-t-elle finalement décidé de mettre un terme à cette mesure qui date de l'ère Trump? Quel est l'impact du nouveau dispositif sur les traversées illégales et sur le système d'immigration américain dans son ensemble, à un peu moins de 18 mois de la présidentielle? Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Au Gabon, Port-Gentil, la capitale économique, traverse des moments difficiles. Plus de 2 ans après la double crise pétrolière et sanitaire, la ville ouvrière de plus de 130 000 habitants, jadis prospère, porte désormais les stigmates du chômage et de la précarité ainsi que leur cortège d'effets pervers dont l'insécurité. Les témoignages sont glaçants dans ce reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
Agression à l'arme blanche, viol et vol à la tire, autant d'actes de grand banditisme devenus monnaie courante à Port-Gentil. Les braquages les plus spectaculaires ont très souvent lieu dans la nuit ou au petit matin. Ulrich revient sur une attaque de bandits contre un bar du quartier Ngadi la semaine dernière.
Ils sont arrivés au bar, ils ont braqué tous les clients qui étaient, ils ont braqué la gérante, ils ont braqué tous les riverains. Ils ne sont pas armés.
Digne des films western, ces scènes quotidiennes jettent un froid dans le dos de Lucie. Cet employé du pétrole connaît déjà le mode opératoire des délinquants de la cité pétrolière du Gabon.
Ils attendent surtout qu'il y ait un petit embouteillage. Et là, ils réussissent à ouvrir une portière, ils prennent le sac et s'en vont.
Des actes qui sont loin d'être des cas isolés, car en janvier dernier, 38 jeunes bandits de grand chemin en possession de drogue, des machettes et tournevis avaient été arrêtés au cours d'une rafle policière à Port-Gentil. Une opération d'envergure qui faisait suite à de nombreuses plaintes des populations en danger. Pour Bertrand Yombi, habitant du quartier La Balise, la capitale économique du Gabon n'est pas encore sortie de l'ornière.
Les mêmes braqueurs qui étaient braqués aujourd'hui, le lendemain matin, même s'il est à la prison, vous le trouvez à la prison. Il y a un recrutement au niveau de la gendarmerie, que ce soit à la police, à la gendarmerie. Tous les militaires et les gendarmes se retrouvent d'un seul côté à Libreville. Tu dois appeler la police judiciaire que j'ai été braqué à la maison. Bon, mais on n'a pas de carburant, il faut arriver. Il faut venir.
Généralement issus des secteurs malfamés de Port-Gentil, notamment les quartiers chics, Banco ou encore Matanda, ces braqueurs sont de l'avis du sociologue Georges Monsavou, les produits d'une société en déliquescence.
Ils développent des réflexes de survie. Parce que quelqu'un qui a de quoi manger, qui a de quoi vivre, qu'est-ce qui le pousserait à aller voler? Il faut bien des actions policières parce que bon, il faut sécuriser aussi les victimes. Il faut, au-delà de ces actions, il faut comprendre quelles sont les causes. Et c'est lorsque on aura compris les causes qu'on pourra agir sur ces causes pour essayer d'atténuer ces situations.
Ces dernières années, plusieurs sociétés de sous-traitance pétrolière de Port-Gentil ont dû mettre la clé sous le paillasson. Difficile alors de ne pas établir un lien entre la misère d'une bonne partie des ménages et la délinquance juvénile, selon plusieurs observateurs. Ismaël Obiangze, de retour de Port-Gentil pour VOA Afrique.
Merci Ismaël. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Jonah Cummins. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.